surprise, motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débat, pronostics et débrief de combat, interviews, mais aussi retour nostalgique sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bagarre Club, votre émission de MMA, tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Prune. Vous vous demandez probablement pourquoi la voix du présentateur a changé. Eh bien c'est parce que je remplace Aurélien ce soir dans ce rôle. Aurélien qui n'est pas là par ma faute, en grande partie. On ne développera pas sur le sujet, mais j'ai vu que Lounis partait. On ne développera pas sur le sujet, mais il y a eu des interférences avec l'émission de ce soir. Bon, il nous rejoindra la semaine prochaine, j'imagine, ce que j'espère. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis avec Lounis.
Toujours fidèle au poste.
Comment vas-tu?
Très bien. Hâte de décrypter un peu les actualités.
Ouais. On a un petit programme quand
on
même.
On a un petit programme, c'est chargé,
c'est pas dégueu.
Pas mal de choses à dire, ouais.
Ouais. Et évidemment, nous avons aussi Nora qui est à la technique. Comment vas-tu, Nora?
Ça va très bien, et toi?
Eh ben, ça va super. Eh ben, on va y aller. Donc, au programme de ce soir, nous allons parler notamment de la Fight Night de ce week-end. Donc, Nassourdine Imavov contre Jared Cannonier. Nassourdine Imavov, qui est français. Donc on parlera de ce combat-là, mais aussi de du combat de Taylor Lapillus, ouais, contre Cody Stamann, donc qui a eu lieu sur la même carte. Ouais. Et on reviendra, si on a le temps, sur le combat de Dominique Reyes. Dis-moi, Nora, je vois que tu...
Non, d'accord.
Ok, donc, j'ai mal compris les gestes. Oui, donc on reviendra aussi sur le combat de Dominique Reyes, ouais, légende de l'UFC, qui avait des déboires récemment, mais...
Plutôt, on aura l'occasion de revenir là-dessus.
On en reparlera, exactement. Qui a gagné un combat, pour la première fois depuis un moment, je crois, si je me rappelle bien.
Ouais.
Voilà, après on fera une petite pause musicale. Lounis a choisi une des chansons et j'ai choisi la deuxième. Ensuite, on fera un point sur les Français classés à l'UFC. Notamment Cyril Gane, Manon Fiorot, Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Et on finira avec le sujet de Saladin Parnasse qui reste au KSW.
Voilà. Polonaise.
Donc, je pense que on peut commencer avec les actus.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight?
Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Donc, Nassourdine Imavov qui a affronté Jared Cannonier qui était classé 4e,
ouais,
dans la catégorie des poids moyens de l'UFC. Qu'est-ce qu'on peut en dire un peu de ce combat? Qu'est-ce que t'en as pensé, Lounis?
Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, on parlera un peu de la fin du combat ensuite, mais dans un premier temps, je trouve que Nassourdine Imavov a enfin débloqué quelque chose dans sa mentalité. Parce que Cannonier dominait clairement le premier round et on sentait que Nassourdine Imavov avait assez peur justement de l'anglaise, en tout cas des combinaisons de coups de poing, de poing, et puis aussi de kick de Jared Cannonier. Et Cannonier prenait très clairement le premier round. Il a réussi à se remettre en selle à partir du deuxième round. Et clairement, le troisième round, il était clairement pour Imavov. Enfin, pour Imavov. Et c'est pas simple, en fait, déjà d'être Cannonier. C'est quand même un combattant qui est assez intimidant.
Fais une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Jared Cannonier, qui est l'un des deux seuls combattants à avoir mis un KO dans trois catégories de poids différentes.
Avec Vitor Belfort et Conor McGregor.
Vitor Belfort,
ouais,
à l'UFC?
Ah oui, tout à fait.
Oui. Autant pour moi, je pensais qu'il n'y avait que Conor McGregor et Jared Cannonier.
Vitor Belfort, ouais.
Mais oui, donc Jared Cannonier qui a mis un KO en heavyweight, qui est quand même impressionnant, en middleweight et en light heavyweight, du coup, si je me rappelle bien. Donc c'est un gros bonhomme quand même.
Et puis là, effectivement, Cannonier avait clairement pris l'ascendant au début du combat, donc c'était difficile de se relancer après. Mais Nassourdine a réussi à trouver justement les clés, les comptes, les feintes justement qu'il a mis en place, c'était parfaitement bien. Enfin, le timing était vraiment au poil. Et il a pas justement, il a réussi à la fois à respecter la puissance de frappe de Cannonier sans en avoir trop peur, et ce qui lui a permis comme ça de mettre en place une offensive qui a été payante, il me semble, à partir du au quatrième round, et donc qui lui a valu donc un KO technique sur Jarad Cannonier, et une très très belle victoire puisque il a été propulsé. Nassourdine Mavov a donc hérité de la quatrième place du classement des poids moyens.
Ce qui annonce du bon pour la suite, mais on y reviendra tout à l'heure plus amplement. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Donc Nassourdine Mavov, notre Français, qui est très très technique comme combattant, qui est un combattant très intelligent. Ouais, je pense que vraiment il s'en est bien sorti et il a su trouver la faille qu'il n'avait pas su trouver face à Sean Strickland qu'il a combattu.
C'était pas tout à fait le même style,
mais disons qu'il a
pas été intimidé par Cannonier, il a réussi justement à ne pas être paradoxalement il a sans être intimidé par lui, il a réussi à respecter la puissance que Cannonier représentait. Et il a pas en face, justement, il a établi une stratégie qui a été vraiment payante. Ouais. Et il a pas, enfin, moi je repense, je cite souvent ce combat, mais quand je repense au Nassourdine qu'on avait eu à l'UFC Paris face à Buckley, il y a pas photo, ouais, quoi.
Là, c'est une vraie évolution.
Ah oui, mentalement, ouais, psychologiquement, il y a une véritable évolution et pour le mieux, parce que là, là, je commence à y croire, à Nassourdine Mavov champion. Avant, c'était difficile. Là...
Et c'est super, parce que vraiment, on va en reparler tout à l'heure. Tu t'arrêtes pile à la limite, donc c'est nickel. Ouais. Mais on va reparler tout à l'heure de la suite pour Nassourdine et de sera-t-il champion en premier ? Sera-t-il le premier Français champion ? Je ne sais pas.
Je conclurai là-dessus hein, pour le combat entre Nassourdine Mavov et Jarad Cannonier. J'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus et même moi, en voyant le combat, ça m'a un peu, c'est un peu le premier truc qui m'est venu en tête. Je pense que l'arbitre Jason Herzog a peut-être interrompu le combat un peu trop tôt parce que même si Jarad Cannonier était sonné, clairement, il pouvait encore se défendre. Après, je pense que Herzog a fait ce choix, parce que Cannonier a quand même 40 ans et que c'est pas très bon pour le corps et ni pour le cerveau de prendre un KO à 40 ans. Mais bon, énormément de fans auraient souhaité que le combat perdure. Après, bon, les fans, on les connaît. Hein. Si le combattant meurt pas dans la cage, ils considèrent que c'est, enfin voilà,
un early stoppage, un arrêt trop tôt.
Voilà, un arrêt prématuré. Donc bon,
prématuré. Excuse-moi.
Bah oui, j'ai fait des études de lettres, monsieur. Toi aussi, normalement.
Normalement. Ouais.
Mais peu importe. Donc non, c'est. Je trouve qu'effectivement l'arrêt était peut-être un tout petit peu prématuré. Mais clairement, Imavov allait le. Enfin, en tout cas, si ça vous intéresse de regarder le combat, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais oui, Nora.
Nora a une question. Écoutons-la.
Pourquoi il a arrêté ?
Il a arrêté parce que
il ne se défendait plus.
Cannonier en fait était submergé par les coups de Imavov. Enfin, submergé. En tout cas, il venait d'encaisser plusieurs coups puissants d'Imavov et il avait sa garde était vraiment trop trop basse. Il ne montrait plus en fait une claire opposition ou une résistance suffisante pour que l'arbitre se dise OK, il vient de se prendre un sale coup, mais il peut encore continuer le combat. Là, c'était plutôt, en tout cas, l'arbitre a estimé que il était plus en mesure de stopper ou de contrer les assauts d'Imavov.
Ouais, de continuer.
Il n'a pas seulement arrêté le round, en fait, il a arrêté
le combat. Sur un KO technique, du coup.
C'est ça, ça a été déclaré KO technique. Mais en fait, oui, c'est ça le truc, c'est que... Vas-y.
Pardon, dans ce type de situation, c'est le jury qui...
Ah non, c'est l'arbitre.
Non, ce que je veux dire, c'est que pour décider de la victoire, quel combattant...
Ça s'arrête. Si t'es plus capable de... Là, en l'occurrence, si Cannonier n'est pas capable, en fait, de remonter sa garde et donc de montrer à l'arbitre qu'il est encore capable de se battre, c'est KO technique.
Oui, d'accord, ok. Oui, c'est pas les KO techniques spectaculaires qu'on peut voir où le combattant est complètement sonné au sol.
Je pourrais en citer d'autres, des combats qui se sont arrêtés parce que, justement, l'arbitre a regardé le combattant et a fait « Non, tu peux pas. Tu peux plus continuer. »
En fait, pour récapituler un peu, mais c'est super parce que il y a peut-être des néophytes qui nous écoutent. Les différentes... Oui, mais toi, t'es une néophyte avancée quand même. Ah, à chaque émission, t'en apprends un petit peu plus.
Moi, c'est gratifiant.
mais oui, donc pour récapituler, les différentes manières d'arrêter un combat de MMA, c'est soit à la fin du nombre de rounds réglementaires, donc soit 3, soit 5. Okay. 3 pour les combats, en tout cas à l'UFC, c'est les combats standards. Et 5, c'est...
Pour les combats pour les titres ou les championnats.
Les combats pour les titres ou alors pour les combats importants, même s'ils ne sont pas pour un titre de champion du monde. Mm-hmm. Donc soit on arrive à la fin du timer des 5 rounds et du coup... Les juges qui sont au bord de cage, qui sont au nombre de 3, décident qui a gagné chaque round et la personne qui a gagné le plus de rounds gagne grosso modo.
Après, ouais.
Après, on peut aussi gagner par soumission, donc en faisant abandonner l'adversaire. Donc à base de clés, à base d'étranglement, à base de voilà, d'attraper et de serrer, en gros.
Voilà.
Et
c'est une sorte d'abandon en fait de la part de celui qui est soumis.
C'est que celui qui est en train de subir l'étranglement ou la clé de bras, de jambes, de tout ce que tu veux, bah, tape. Voilà, c'est-à-dire tape quoi pour signifier qu'il abandonne.
C'est bon, j'arrête. Voilà. J'en ai marre. Laisse-moi. Voilà. Laisse-moi vivre.
S'il a pas envie,
mais voilà. Et du coup, il y a aussi, bah, la dernière principale, en tout cas, raison d'arrêter d'un combat, c'est un des combattants ne se défend plus. Donc ça, c'est chaos technique. C'est il est encore conscient, mais il ne se défend plus. Et après, il y a chaos.
Chaos pur et dur.
Chaos, c'est il tombe, il dort.
Voilà. Max Holloway contre Justin Gaethje. Hein,
exactement. Exactement. Sauf que bah du coup, des fois, il y a des combattants qui tapent pas sur une soumission, par exemple, et qui préfèrent aller dormir. C'est un choix. Mais du coup, c'est l'arbitre qui dit bah là j'arrête. Et pareil pour les KO techniques. Des fois, un combattant considère que lui est encore capable de se défendre, alors que l'arbitre de l'extérieur trouve que non. Et ça a été le cas avec plusieurs combats où il y a un combattant qui est parfaitement capable de se battre après et en fait il fait le choix de baisser ses mains un petit peu et de chercher l'autre personne quoi. Mais voilà.
Okay, merci pour ces précisions.
Voilà pour ce petit récapitulatif. On va terminer sur Imavov et Jared Cannonier. Je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Enfin voilà, je pense pas que c'était un arrêt prématuré. Enfin, si, je pense que c'était un peu prématuré.
C'était
quand même
un petit peu tôt, mais bon, ça fait une belle victoire pour notre Français.
Je pense que c'était qu'une question de secondes avant que Jared Cannonier ne puisse vraiment plus du tout se défendre. Et là, en effet, j'ai vu l'arbitre expliquer après à Cannonier pourquoi il avait arrêté. Et en effet, quand tu regardes le replay, c'est vrai que Jared Cannonier a pris plusieurs coups qu'il n'a pas défendu.
Oui.
Et en fait, il a juste couru à l'autre bout de la cage pour éviter son adversaire. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire un peu. Autre chose à dire sur Cannonier?
Non, je pense qu'on peut passer au reste de la carte.
Donc on va passer au reste. Donc on va pas faire toute la carte, je pense. Si on a le temps, peut-être qu'on y reviendra plus tard. C'est ma première fois en tant que présentateur, je ne sais pas si je vais bien gérer le temps.
Donc
je me laisse de la marge.
Passons à, je pense, Taylor Lapillus contre Cody Sandman, ça me semble.
Je pense que c'est une bonne idée. Donc Taylor Lapillus qui a affronté Cody Sandman.
Ouais.
Staman.
C'est ça, ouais. Ouais,
c'est quoi l'issue déjà?
Taylor Lapillus s'est imposé par décision, bah, comme à l'accoutumée, hein, mais Taylor Lapillus, donc c'est un striker, il est également commentateur MMA pour la chaîne RMC Sport. Là, effectivement, il est retourné un peu aux affaires parce que là, il me semble que le dernier combat qu'il avait fait, c'était au dernier UFC Paris, donc en septembre dernier.
Exactement. Contre l'invaincu Kaolan Lugran, qui l'a battu par décision unanime, assez royalement, on va dire.
Voilà. Bon, Taylor Lapillus, à nouveau, hein, sans lui enlever quoi que ce soit, mais c'est pas un combattant très spectaculaire dans la mesure où il est très précautionneux, il gère très bien son. Comment ?
Cérébral.
C'est ça. Il gère très très bien son timing, l'allonge surtout qu'il a, il en tire énormément de profit et il aime beaucoup justement les combinaisons de kickboxing, d'anglaise et tout. Il aime bien dominer un peu à la manière d'un Cyril Gane, il aime bien dominer au point ses adversaires. Donc là, c'est ce qu'il a fait globalement. Bon, il y avait un tel écart d'allonge que il a quadrillé pendant Cody Sandman avec ses jabs et il a justement joué un petit peu sur les changements de niveau, enfin sapé un peu également l'équilibre de son adversaire avec des low kicks.
En fait, donc Taylor Lapillus, je pense qu'on peut dire que pour des gens qui regardent du MMA assez occasionnellement et sans trop en faire, c'est pas très divertissant à regarder.
Non.
Parce que c'est quelqu'un de extrêmement tactique et extrêmement technique. Mais alors par contre, quand on en fait, c'est magnifique à regarder, c'est exceptionnel.
C'est très très c'est très poussé.
Immaculate, comme on dit en anglais.
Immaculée,
parfaite. Enfin voilà. Non, c'est vraiment impressionnant.
Ça doit être des combats qui s'étirent finalement, non ?
Ouais.
Ah bah par contre oui.
Par contre,
il a combien de victoires à la décision, je vais vous dire ?
Il aime beaucoup.
10 sur 20, la moitié, c'est pas mal quand même. Mais voilà. Mais par contre, ces quatre défaites étaient aussi par décision. Donc c'est quelqu'un qui tient bien dans le.
Ouais.
Okay.
Voilà. Mais tout ça pour dire, il avait combattu à l'UFC fut un temps. Il avait été viré, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il avait gagné la moitié de ses combats. Et en fait, il a eu un moment de passage à vide où il a fini par revenir à l'UFC et par faire des performances assez magistrales. Bah deux. deux performances magistrales du coup contre Caolan Lundgren dont on a parlé et Cody Stamann là voilà récemment. Donc comme t'as dit en fait on n'a pas grand chose à dire
si pas ce du n'est tout, que hein, c'est une victoire maîtrisée ouais. C'est très bien pour je
pas
veux
de
dire
doute, pas de...
bravo voilà. Bravo à lui mais c'est, effectivement il n'y a attendait. Pas grand chose à ajouter
voilà. C'est ce qu'on attendait d'un Taylor Lapillus confiant voilà c'est que ça ce n'est pas choquant. Voilà, est-ce qu'on se fait la première petite pause musicale?
Je pense qu'on peut.
Eh ben super. Du coup, on va s'écouter J'arrive de Ben Mazué, mais alors pas la version originale, la version alternative. C'est parti.
Agrandis-moi, force la ferveur. Réponds-moi, inspire mes peurs. Porte ma croix, juste quelques heures, et donne-moi la foi, inspire mes peurs. Termine de signer entre les hommes l'idylle qui va me décider à rester anti-cynique. Résiste à mes idées, concilie la branche sur laquelle on est assis sacré. Donne-moi des signes, attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive. Je cherche en qui croire. J'arrive. Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave. C'est des Esquimaux, des bobos. Dis-moi que tout est possible. Si à ceux qui bravent, l'important c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout. Sur toi, j'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. Attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille à l'espoir. J'arrive. Me chercher en qui croire. J'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive. Je cherche en qui croire. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive.
Bagarre Club.
Bonsoir à tous, re-bienvenue.
Bienvenue à nouveau.
On est de retour sur Prune Radio. Vous êtes... Je vais y arriver. Je comprends pourquoi Aurel fait des bugs
c'est
maintenant.
Pas facile, hein, c'est pas facile.
Vous êtes de retour sur Prune Radio. Vous écoutez Bagarre Club, votre émission de MMA, tous les mardis soirs de 19h à 20h. On a parlé durant notre première partie de la Fight Night, de la soirée de combat. Nassourdin Imavov versus Jared Cannonier. Donc Nassourdin Imavov, le français. On va revenir sur juste le dernier combat un peu important pour nous de cette carte, le co-main event. Et après, on passera sur un autre sujet. Donc, ce combat dont nous parlons, c'est Dominique Reyes.
Oui.
Contre... Attends, j'ai plus son nom.
Je n'ai plus son nom.
C'est...
Mais...
Oh là là.
Si je le retrouve... Non. Alors non, mais on va en parler.
On va parler vite fait.
Dominique Reyes, donc ancien prétendant au titre.
Justin Jacoby, non?
Ouais, ancien prétendant au titre, donc poids lourd léger de l'UFC face à John Jones notamment, et qui donc était sur une série de 4 défaites consécutives, ce qui est beaucoup.
Qui a gagné son combat face à John Jones.
Non, il l'a perdu. Enfin,
pas officiellement, mais
officiellement,
bon.
Mais
c'était un peu un vol.
C'est pas le débat. Voilà. C'est pas le débat. Mais effectivement, c'est un ancien prétendant au titre. C'est un combattant assez abouti avec vraiment. Qui avait une bonne lutte, un très très bon striking surtout. C'est notamment sur ça qu'on pouvait voir en lui, surtout après le départ de John Jones, le futur champion de la catégorie. Malheureusement, il s'est pris un KO par Jan Blachowicz. Il s'est pris, alors c'est même plus un KO, c'est une fatality de Mortal Kombat face à Jiří Prochazka. Et après,
Jiří Prochazka qui a été champion par la suite, ouais. Et qui lui a mis un coup de coude retourné.
Voilà. Après un enchaînement, mais sanglant au possible. Enfin, le combat est très moche à regarder. Enfin, très beau et en même temps très moche. Ouais.
Mais oui, c'est comme tu dis, c'était. Quand il a eu ce combat face à John Jones, qu'il a perdu par décision unanime, ce qui était absolument scandaleux, puisqu'il y a énormément de gens qui le voyaient gagner le combat, Dominique Reyes.
Parce qu'il est 4, là je viens de vérifier parce que je souhaitais être sûr, mais ces 4 derniers combats, c'était que des défaites par KO.
Et justement.
Et je pense que pour le mental et l'ego, c'est quand même vraiment terrible quoi, de subir ça.
Ah bah ouais. Et en fait, justement, c'est ça le truc, c'est qu'il est passé du plus haut niveau de sa carrière où il avait quand même battu. Pas officiellement, mais quand même.
Officieusement, il avait clairement dominé John Jones, en tout cas.
Officieusement, John Jones. Et donc, l'un des combattants qui est considéré comme. L'un des meilleurs combattants de.
Non, mais il est par beaucoup de personnes, Dana White, donc patron de l'UFC, c'est pas mon avis, mais il est considéré comme le meilleur combattant de tous les temps. Voilà,
avoir jamais foulé cette terre. Enfin, bref. Mais du coup, voilà, il est passé de ce point culminant de sa carrière, victoire officieuse face à John Jones, à 4 défaites d'affilée. Assez violente et assez enfin ça allait que d'un côté quoi, il s'est fait défoncer,
c'est vraiment, il s'est pris que des KO quoi, et c'était surtout la violence des KO, enfin sans parler de celui de Prochazka, celui de Blachowicz, il faisait mal aussi tu vois, donc
et du coup il s'est un peu recentré sur lui-même, j'ai l'impression, puisque il a fait 2 ans de pause,
oui, une absence de 2 ans
sa dernière défaite et cette victoire là de dimanche matin, et en fait il y avait énormément de gens, énormément de fans de MMA qui pensaient qu'il n'allait jamais revenir n'allait jamais gagner, en tout cas puisqu'il était à un niveau, enfin c'est un peu devenu une blague au bout d'un moment, Dominique Reyes.
Malheureusement, mais c'est.
Et là, il est revenu. Et avec la manière.
Avec la manière, parce que KO au premier round. Donc, une sorte
2 minutes du. Ouais. Oui, 2 minutes du début. Donc,
Une performance vraiment, vraiment très honorable, parce que. Une sorte de rédemption. Hein,
et qui fait plaisir.
Et qui fait plaisir, parce qu'il avait, c'est ça, 4 défaites par KO, aucune victoire, alors qu'il avait quand même réussi à dominer John Jones. Et là, il revient avec la manière, avec un KO très spectaculaire dès le premier round. Tout le monde a l'air, vraiment, tout le monde est très très heureux pour lui, je voyais ça.
Moi y compris.
Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est super.
On souhaite que Tony Ferguson fasse la même chose.
Ça n'arrivera pas.
Tony Ferguson, légende de l'UFC, qui est sur une série de 7 défaites, ce qui est un record.
Voilà. Et la suite pour Reyes, je suppose que peut-être un combattant comme Anthony Smith pourrait être assez intéressant, d'autant que les deux sont d'anciens prétendants au titre. On verra ce que ça donne, mais dans un premier temps, c'est super qu'il ait réussi.
Ils sont tous les deux sur une victoire aussi.
Ouais. Donc on verra ce que ça donne, mais dans un premier temps, c'est très cool qu'il ait réussi à se remettre un peu en selle.
Et on lui souhaite de continuer.
Absolument.
Parce que la catégorie des lourds légers est assez.
Elle est un peu vide en ce moment.
Peu mouvementée. Un petit Dominique Reyes là qui revient.
Revient au top rêver, de sa forme.
Serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais voilà. Changement de sujet.
Ouais.
Passons à notre petit point que nous devions faire sur les combattants et les combattantes français classés à l'UFC. Je crois que je les ai tous. Tu me dis si je dis une bêtise, mais je pense que je les ai tous. Donc les combattants français classés à l'UFC, pour l'instant, nous avons Cyril Gann, Manon Fiorot, Nassourdine Imavov, et Benoît Saint-Denis.
Oui, je crois que c'est les seuls classés.
Je pense que c'est les bons. Nous avons plusieurs combattants et combattantes français à l'UFC à part ça, mais qui n'ont malheureusement pas encore réussi à se faire une place dans les classements. Cependant, surtout les 2 têtes d'affiche, on peut même plus dire ça, mais
tête d'affiche,
là c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse,
c'est un peu ça.
Donc Cyril Gann qui est chez les poids lourds et qui a été champion intérimaire de la catégorie, donc qui est classé Deuxième.
Oui, il reste actuellement, il est toujours classé deuxième.
Il est classé deuxième dans cette catégorie poids lourd qui est compliquée.
Oui, voilà. En ce moment, c'est le Dawa, hein, voilà. Faut dire style.
Avec un style très, très intelligent aussi, Cyril Gane, très léger par rapport à celui des autres heavyweights.
C'est très impressionnant parce qu'il se mouvoie vraiment comme un poids moyen, alors même qu'il est deux catégories au-dessus. Quoi. Ouais. Il a une agilité, une souplesse même et une vélocité qu'on ne voit que très 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 rarement, pour pas dire, honnêtement, j'ai pas souvenir d'un poids lourd qui a réussi à avoir ce style-là, en tout cas de pied-point chez les poids lourds, quoi. C'est vraiment très impressionnant.
Ou alors, en tout cas, il avait pas autant de succès parce qu'il arrivait pas à l'adapter aussi bien que Cyril.
Ouais, ouais.
Mais voilà, donc qui est chez les poids lourds, qui a eu cette ceinture intérimaire de champion intérimaire. Mais qui a perdu face à John Jones récemment pour la deuxième fois face à, pour un titre de champion du monde incontesté. Donc il y a ce personnage-là sur lequel on va revenir après parce que j'ai une petite question à te poser, Louis. On a aussi Manon Fiorot qui est chez les poids mouches.
Poids mouche, ouais, tout à flyweight, oui, tout à fait. Elle est chez les poids mouches. Donc là, effectivement, après sa victoire face à Erin Blanchfield, ça fait un moment que Manon Fiorot attend d'avoir sa chance face au titre. Mais la catégorie des poids mouches est un peu dans une impasse parce qu'il faut d'abord conclure la fameuse trilogie entre Valentina Shevchenko et Alexa Grasso.
Exactement.
Et on aura la réponse, du coup, à qui sera la championne de cette catégorie, probablement à la fin du combat de... Alors... Pour situer, je vais aller très vite là-dessus, Valentina Shevchenko et Alexa Grasso sont en train de tourner une télé-réalité de combat qui s'appelle The Ultimate Fighter. Et à la fin de
Le combattant ultime.
Voilà, et à la fin de cette télé-réalité, donc, elle coach pendant cette télé-réalité une cohorte de combattants. Et à la fin, comme c'est la tradition, elles doivent s'affronter dans un combat. Là, en tout cas, ce sera durant un troisième combat. Mais... la vainqueur du coup de le la pardon la vainqueuse vainque, bref la per,
la gagnante
la gagnante
la victorieuse
de ce, voilà la victorieuse
voilà, exactement
la victorieuse de ce combat donc prendra probablement Manon Fiorot pour défendre sa ceinture. Je miserais plutôt sur Alexa Grasso, mais Valentina Shevchenko nous habitue à beaucoup de surprises, donc on verra ce qu'il en est.
Donc Manon Fiorot qui est classée deuxième et de qui on attend probablement de combattre pour le titre
Je pense que c'est la plus proche d'être la première championne.
Tu empiètes sur ma question, Lunis.
Pardon.
Non mais
je vois la question du commentaire.
Voilà, exactement.
Pardon.
On va y revenir juste après. Donc voilà, donc Manon Fiorot qui est classée deuxième. Attends, j'ai dit une bêtise. Troisième.
Je
l'avais sous les yeux à l'instant.
Deuxième parce que première c'est Shevchenko du coup.
Voilà. Donc du coup Manon Fiorot qui est classée deuxième chez les femmes et nous avons aussi le fameux, je pense le plus connu à l'heure actuelle, Benoît Saint-Denis.
12e ou 13e non des poids légers.
Il est actuellement
13e, il me semble.
Je ne l'ai pas. 13e.
13e.
13e au classement des poids légers de l'UFC, la catégorie la plus relevée
clairement,
de cette organisation.
Donc il s'est incliné malheureusement récemment face à Dustin Poirier.
Dans un combat.
Qui était un peu perdu d'avance, mais en tout cas, Benoît Saint-Denis a quand même des performances qui sont assez incroyables. Mmh. Quasiment tous les combats, il les a remportés par finition. Ouais. Il a évidemment un
manque. Zéro victoire par décision.
Ouais, donc non, il aime finir ses combats, c'est sa mentalité. Ouais. Maintenant, bon voilà, il sort d'une défaite assez terrible face à Dustin Poirier. Pas humiliante, mais vraiment frustrante et assez terrible. Et
pour recadrer un petit peu, je pense que c'est important de donner le contexte, je vais essayer d'aller vite. Mais il est arrivé dans ce combat face à Dustin Poirier, qui est un monstre à l'UFC et qui a battu de très 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 gros noms, qui a d'ailleurs combattu pour le titre la semaine dernière. Là.
Ouais.
Non, la semaine d'avant. Il est arrivé sous staphylocoque, sous antibiotiques à cause d'un staphylocoque, donc très très diminué. Et il a quand même réussi à faire vivre l'enfer à Dustin Poirier sur le premier round. Ouais. Ce qui est, je vais pas dire du jamais vu, mais ce qui est
Mais c'était assez impressionnant. Vu l'écart, parce que Poirier était classé 3e, je crois, de la catégorie des poids légers. Et lui, il était classé 13e.
C'est terrible.
Faire ça à Poirier alors que t'es 13e, c'est quand même dingue.
C'est quand même impressionnant. Donc voilà, Benoît Saint-Denis qui...
Qui ne représente plus vraiment maintenant, je pense qu'il est...
Voilà, on le présente plus, ouais, surtout que pour ceux qui nous écoutent un petit peu régulièrement, on en parle à chaque émission.
Ouais.
et enfin, nous avons celui dont nous avons parlé.
Nassourdine Imavov.
Nassourdine Imavov, qui passe là, quatrième.
Qui là est rentré dans le top 5 quand même des poids moyens. Ce qui augure probablement beaucoup de bonnes choses. Je sais pas si. Alors, vas-y, je vais te laisser poursuivre. Bah, autant pour moi.
Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà, j'ai noté un petit truc qui me fait marrer, c'est le fait que ces quatre combattants qui sont au top niveau à l'UFC, en fait, ils ont tous. Je vais pas dire le même style parce que c'est pas le cas, mais ils sont tous un peu basés sur un style de pied-point très intelligent, en fait. Oui. C'est un peu leur grande force. Et je me dis, est-ce qu'on n'a pas une matrice en France de combattants, de striking,
on est un pays de toute manière très intellectuel. Donc, même en boxe, par exemple, je pense à ça. Si tu prends.
Dépend du point de vue.
Non.
Vas-y. Dans les sports de combat.
Je venais un peu avec la provocation, mais même si on prend les sports de combat, prenez, je sais pas, Teddy Riner, Marcel Cerdan en boxe, c'est. On n'a jamais eu, je veux dire, ou alors il y a très très longtemps, mais plutôt des combattants assez cérébraux, assez techniques, très polissés, qui n'ont pas justement, et peut-être pour le mieux souvent, mais qui n'ont pas cette énergie un peu folle que vont avoir les Brésiliens ou les Américains typiquement. Et on n'a pas ce côté non plus, pour comparer avec le reste du monde, même si on a nos propres atouts, mais on n'a pas ce côté un peu... brut et force de la nature qu'ont les Russes notamment parce que c'est pas exactement les Russes de base, tous les Slaves,
c'est des philosophies de combat qui sont très différentes et c'est très intéressant et ça veut pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre mais
c'est le passif je pense du pays et bref la mentalité
des fois ça pose problème je pense notamment à Taylor Lapillus c'était Taylor qui, sur son dernier combat, on a cru qu'il allait le louper parce que...
manque d'activité.
On a eu un peu peur.
Je plus sois ce que tu viens de dire. On a, en France en tout cas, et c'est quelque chose que j'avais remarqué chez les combattants français qui justement arrivaient à percer comme ça le classement UFC, ils sont quand même très cérébraux, très techniques, très polissés. Et même pour un Benoît Saint-Denis qui, on va dire, est le plus brut. Ouais, le plus brut, ou en tout cas féroce, on va dire, clairement. Celui qui cherche le plus à avoir le chaos, la soumission.
Mais féroce, même très intellectuel.
Très, très réfléchi. Ouais. Vraiment, c'est très technique, c'est très.
C'est une dinguerie.
Ouais.
Et du coup, la question que je voulais te poser, sur laquelle tu as empiété un petit peu tout à l'heure, c'était qui va être champion ou championne en premier si l'un des quatre est champion ou championne
alors,
un jour
Je pense que celui ou celle qui a le plus de chance.
Alors attends, je me dis oh attends, il y a une autre question. Et qui entre les quatre sera champion un jour tu peux en choisir plusieurs si tu veux.
Manon Fiorot et c'est pas facile.
C'est dur, hein.
C'est pas facile parce que les quatre.
Non, choisis pas un. Tu peux dire, moi, je pense que telle personne va être champion. Tu peux dire, les quatre vont être champions.
Nassourdine, ça me semble pas déconnant, mais faut qu'Adesanya et Whittaker soient plus là. Et encore, il y a Hamzat. Donc, ça va être chaud. Benoît Saint-Denis, c'est faisable parce qu'il est encore jeune. Il a beaucoup de choses encore à prouver, mais les poids légers, c'est quand même terrifiant. Actuellement, c'est quand même terrifiant et ça va le rester, je pense.
Manon Fiorot.
Manon, je pense que c'est honnêtement, il y a pas beaucoup de concus hein, et les rares.
À son niveau, en tout cas.
À son niveau, il y en a pas beaucoup. Tu vois, je parle pas d'une montée justement. D'ex Amanda Nunes, je sais plus laquelle c'est, mais catégorie supérieure.
Ouais. Bantam.
Bantam, voilà, c'est ça. Chez les poids coqs, féminin. Mais chez les poids mouches, il n'y a pas vraiment de... Je pense que si elle arrive à battre Grasso ou Shevchenko et qu'elle se maintient à ce niveau-là, il n'y a rien qui va réussir à la plier. En tout cas, avant un moment, avant que naturellement le niveau baisse. Mais...
Le temps suit son cours et au bout d'un moment, tous les champions et les championnes sont détruits.
Le problème, et je vais poursuivre peut-être un petit peu là-dessus, mais Cyril Gane est inactif. Je sais pas ce qu'il fait là, à faire des films avec Franck Gaston Bidet, mais
il a le droit, mais sa stratégie sportive n'est pas au point.
Elle l'est pas du tout.
Refuser de combattre tout le monde, ça a marché un temps.
Ça ne fonctionne pas.
C'est ça, c'est refuser de combattre en dessous de lui dans les classements.
C'est ça. Surtout que
ça marche un temps, mais là, en fait, on est dans une situation où il y a des combattants en dessous de lui, ouais, qui sont plus méritants pour, oui, le titre parce qu'ils ont battu plus de compétitions.
D'autant que moi, je me rappelle, pour l'avoir suivi tôt, quand même, ça, il gagne de sa doxa qui était à une époque anyone, anywhere. Donc, n'importe qui, n'importe où. Bah, putain, c'est loin cette affaire.
Ça a changé.
Donc bon, Cyril Gane, là, c'est un peu fou. On espère le voir à l'UFC Paris, mais bon, des chances pour le titre, à moins qu'il enchaîne les finitions. Mmh. Il doit pas être dans les petits papiers de l'UFC, hein, en tout cas.
Je pense qu'il a le niveau champion, mais que sa stratégie...
Mais il a pas le niveau champion, manager, t'es mal à lutte.
Ah non,
non,
en lutte, non,
moi je parle
mais
de ça. Non, mais
en fait, ce que je veux dire,
on parle
que
de MMA,
lourds,
pas de kickboxing.
Chez les poids lourds, le niveau de lutte est inexistant, à part avec John Jones et Jelton Almeida. Ouais. Mais sinon, c'est terrible, c'est ahurissant même, je dirais.
Mais donc Cyril Gane, ouais, j'ai un peu du mal là à comprendre sa stratégie, donc je le vois pas très vite. Nassourdine.
Et maintenant, du coup, qui, à ton avis, sera champion le plus rapidement?
Bon, Manon Fiorot.
Je suis d'accord avec toi.
Manon Fiorot. Mais alors, j'aimerais bien une revanche entre... Certains l'ont énoncé, hein, mais j'aimerais bien voir une revanche entre Shane Strickland et Nassourdine Mavov.
Je suis d'accord.
Avec ce Nassourdine-là, qui a quand même vraiment progressé mentalement et martialement parlant. Benoît Saint-Denis, évidemment, j'ai envie de voir comment dire, ce qui va suivre pour lui. Mais ça va vraiment être chaud. Il en est capable, hein, mais quand tu vois le niveau de Maratchev là face à Poirier.
Maratchev champion de la catégorie des poids légers.
Maratchev champion, c'est terrifiant. Je dis pas qu'il en est pas capable, mais ça va être. Va falloir se dépasser. Mais vraiment atteindre un niveau, je pense qu'il est.
Je pense que. Alors, moi de mon point de vue, du coup, je vais donner mon avis rapidement et après on fera une petite pause musicale. On va en discuter encore un peu, on fera une pause. Je pense que, honnêtement, la personne qui est la plus proche du titre, c'est Manon Fiorot, qui est vraiment, qui a des ailes là en ce moment, qui survole la compétition. Donc ça me choquerait pas qu'elle soit la prochaine prétendante au titre et qu'elle soit la prochaine championne. Cyril, en effet, sa stratégie managériale est pas bonne, je pense, de mon point de vue. C'était bon un temps, mais là, ça marche plus. Il va falloir qu'il accepte de combattre en dessous de lui et de se faire face à la compétition pour regagner une troisième chance au titre. Ce qui commence à faire beaucoup, va falloir se bouger les fesses un peu un moment. Ouais. Mais on adore Cyril Gane, évidemment, hein, qui est très gentil. Et du coup, Benoît Saint-Denis, moi je l'ai déjà dit, et même après sa défaite face à Poirier, j'ai déjà dit, il sera champion un jour. Quand? Je ne sais pas, mais ça va arriver. Parce que j'ai vraiment énormément confiance en son niveau là. Ce que j'ai vu, sachant qu'il est au début de sa carrière, je suis épaté. Maintenant, ma vision a un peu changé suite à sa rupture avec Daniel Warin, qui est son coach principal. Daniel Warin, excellent coach,
très grand coach,
excellent coach français, ouais, si ce n'est le meilleur, honnêtement.
Mais il est très très compétent.
Il a accompagné des champions, hein. Il a accompagné notamment Anderson Silva, Pantoja, quelqu'un, Chris Weidman aussi, je crois. Mais voilà, donc coach d'élite.
Non, Rock, il est coaché Silva et Weidman, mais bref, ça c'est un autre débat.
C'est une histoire pour les OG, ouais.
Pourquoi
pour les encyclopédies.
Je t'en parlerai en off, Nora.
Ah non, parce que là j'ai vu le sourire malicieux de Nora, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle allait lancer
Lounis
sur la période.
Il faut savoir qu'il y a des moments où tu peux le lancer sur des sujets très précis. C'est une fenêtre qui s'ouvre pendant quelques secondes, et si tu t'engouffres dedans, t'arrives à...
Ah ouais, mais là je pense qu'on était...
T'as un univers connu qui s'étale devant toi. Et ça,
puis moi, en plus, ça me passionne quand Lounis il parle de
l'UFC, de la grande époque.
OG, Original Gangster.
De 2000 à 2013, ouais.
Mais je vais pas te lâcher, je pose la question.
On fera une émission dessus, je pense. Mais voilà, tout ça pour dire, Benoît Saint-Denis, après sa rupture avec Daniel Warin, on dirait un couple, mais bon.
Les coachs et
les combattants, ça ressemble un petit peu, toute proportion gardée. Et Daniel Warin ne comprend pas non plus cette décision. On en parlera peut-être après la pause, je pense. C'est peut-être intéressant.
Je crois qu'on en avait parlé déjà à l'émission précédente.
Oui, mais j'étais pas là, j'étais absent.
Oui.
Mais voilà, tout ça pour dire, personnellement, je pense que, en fait, là maintenant sans cet accompagnement de Daniel Warin qui était exceptionnel, je sais pas si Benoît Saint-Denis va continuer à enchaîner comme ça.
On verra, il est en tout cas il se dit qu'il apparaîtra à l'UFC Paris donc en septembre, on verra à ce moment-là s'il y a quelque chose qui a changé ou non.
Face à quelqu'un au-dessus de lui, je pense, j'espère.
Jalin Turner, c'est ce
Jalin Turner, ce serait pas mal.
Jalin Turner ou Dan Hooker, mais
Mais je me fais pas de soucis pour Benoît Saint-Denis. Je sais pas quand ça va arriver parce que la catégorie des poids légers est extrêmement chargée. Mais là, cette victoire de Nassourdine qui le propulse à la 4e place quand même et qui apparemment
sera le prochain.
Ouais, Strickland ou alors, enfin, je vais.
Non, pas Adesanya. Ouais. Tu chopes pas Adesanya comme ça tout de suite.
Tu m'as vu venir. J'allais dire shot ou.
Non, non, Adesanya il coûte trop cher. Tu l'as pas comme ça. Bat,
parce que Strickland, c'est possible qu'il ait un title shot après sa victoire face à Paulo Costa récemment, qui était très ennuyeuse d'ailleurs, mais bref. Mais par contre, je pense que là, Nassourdine se rapproche de plus en plus du titre. Et il suffit qu'il y ait des petits ralentissements dans la catégorie de Manon. Fioro, je pense qu'il y a moyen que Nassourdine soit champion en premier, ce qui m'étonne énormément. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui. Je pensais que c'était la personne la plus loin dans la course. Et là, il nous a pas surpris, mais il remonte très rapidement.
Ouais. Voilà. Clairement.
Donc ça fait plaisir. On se fait une dernière petite pause musicale. Nora, je vais te laisser dire ce qu'on écoute parce que je ne me rappelle plus.
On va s'écouter Van Halen.
Ain't talking about love.
C'est ça.
Voilà. Donc on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après.
People, people, keep talking about love to one another.
Bagarre Club.
Vous êtes de retour sur Bagarre Club, voilà.
Nous sommes de retour.
On est de retour sur Bagarre Club. Donc voilà, on va utiliser les quelques minutes qui nous restent pour parler de Saladin Parnasse. Donc Saladin Parnasse, est-ce que tu veux le présenter, Lounis, ou j'y vais?
Tu peux y aller.
Eh bah, très bien. Saladin Parnasse, donc considéré comme le Mbappé du MMA français. Il se compare régulièrement à lui. Qui est ouais un jeune prodige du MMA qui se produit. Et c'est le problème, malheureusement, dans des organisations, enfin dans l'organisation du KSW, l'organisation polonaise, ouais. Qui est une organisation majeure officiellement, mais dont la compétition est limite et assez basse en fait. Le niveau n'est pas au top. Et en fait, depuis quelque temps, Saladin Parnasse parlait du fait qu'il allait probablement changer d'organisation pour aller à l'UFC, donc l'organisation l'organisation Rennes, ou au PFL, qui est la deuxième plus grande, je pense.
Oui, parce que maintenant, ils ont racheté le Bellator. Oui.
Exactement. Donc voilà, c'est deux-là avec le ONE, donc c'est un peu la Sainte Trinité du MMA.
Le ONE, ouais,
Le ONE, c'est quel
Le ONE Championship.
Le ONE, c'est une organisation chinoise qui se démarque surtout parce qu'ils ont Demetrius Johnson. Voilà. Oui, elle est chinoise.
Ouais, mais même okay.
Ça veut pas dire qu'ils ont. Ça veut pas du tout dire que le niveau du Wayne est mauvais.
Il est très bon.
Juste que la plus grosse tête d'affiche qu'ils ont, c'est plus orienté Muay Thai.
C'est plus orienté Muay Thai, striking, voilà. Ouais. Il y a du MMA, mais ils font aussi beaucoup de Muay Thai et beaucoup de grappling. Et ça, c'est assez rafraîchissant dans une organisation comme ça. Donc il y avait des discussions d'aller à l'UFC, d'aller au PFL, ou alors de re-signer au KSW, ce que personne voulait. Personne ne voulait qu'il aille au KSW, puisque on s'ennuie quand on voit des combats au KSW.
C'est pas très palpitant d'un point de vue technique, martial, ou en termes de hype.
La blague qui revient régulièrement, c'est que Saladin Parnasse n'affronte que des plombiers. Dans le sens
des routiers.
Où, voilà, c'est ça.
Je les croise souvent sur la 8. Je les salue. Bogdan, Igor, Vladimir. Voilà, c'est mes sauces.
Évidemment, ce sont des combattants professionnels, mais on aime bien blaguer sur le fait que bon, ils ont été embauchés un peu comme ça, alors que ça va, Nora, tu t'en remets. Voilà, ils ont été embauchés un peu comme ça, alors qu'ils étaient en train de faire de la plomberie chez le directeur du KSW, quoi.
Ah, il y en a un, il a réparé mes toilettes. J'ai un coup avec lui, Vladou, je suis fan de toi.
Il a combattu le
lendemain. Ah non, mais voilà.
Mais voilà, le niveau sportif n'est pas exceptionnel.
Non, c'est ça, on rigole, mais c'est surtout que le niveau est vraiment pas là. Et, bon.
Et que Saladin est bien
mais c'est ça le truc, c'est qu'il est vraiment bon. Tout le monde parle de prodige, etc. Ce que je pense. Il a sportivement et athlétiquement, il a quand même des facultés, des compétences qui sont vraiment assez hors normes. Maintenant, bon, on a fait la perche est trop grande, mais on fait la comparaison avec Mbappé. Oui, mais Mbappé, il signe avec le Real. Il signe pas avec Carquefou. En fait, si t'es Mbappé, si t'es Zlatan, tu vas pas jouer. Tu vois, tu joues pas au FC Metz.
Voilà.
Tu joues au Bayern Munich normalement.
C'est ça. Être un prodige qui reste dans un environnement où il est pas challengé.
Ah, c'est ça.
Le MMA est challengeant dans tous les cas.
C'est pas très fertile pour lui.
Non,
mais
bah,
voilà, il pourrait aller beaucoup plus
mais
haut.
C'est ça.
Je pense.
Et on n'a pas, à nouveau, je vais embrayer là-dessus, mais on n'a pas même une très bonne image, ou en tout cas, on se représente pas tant que ça en fait. À quel point Saladin Parnasse est vraiment bon? Parce que il a jamais affronté, j'en sais rien,
il ne pousse pas.
Mais non, il a jamais affronté vraiment un combattant.
On se dit,
oh la vache, il concourt ça dans trois catégories, mais d'un
c'est
autre
ça.
Côté,
il a quand même monté de trois catégories de poids, donc 20 kilos, un truc comme
ça.
Et il a fait un combat serré face au welter, ce qui n'arrive pas aussi facilement normalement.
Non.
Et voilà. Donc voilà. Et les trois options, c'était UFC, PFL, KSW. Sachant que l'UFC paye
mal, très mal.
C'est une honte. Surtout en entrée de carte entre guillemets, les combattants les moins bien classés sont très très mal payés. Il y en a qui vivent à crédit ou qui ont un taf à côté.
Oui.
À l'UFC quand même, l'organisation la plus importante, ils ont un taf à côté. C'est terrible. Et le PFL qui paye par contre vraiment bien ses athlètes pour le coup, qui respecte vraiment les salaires. Et par contre, bah, le niveau est un peu plus bas aussi. Oui, la visibilité est un peu moins bonne. Donc nous, on s'attendait, enfin, je crois qu'on en avait parlé, on s'était dit, il va pas re-signer au KSW. Parce que paye sera meilleure au PFL et la visibilité sera meilleure à l'UFC. Au final, il a re-signé au KSW et il est devenu, alors, il faut le noter quand même, il est devenu le combattant de MMA français, le combattant français de MMA le mieux payé de tous les temps.
Mais voilà. D'un autre côté, c'est très bien pour lui. Il se met bien. Je suppose que voilà, il doit avoir.
Mais c'est un peu facile.
Il doit pouvoir mettre sa famille, ses proches à l'abri. Il est. Peut-être que justement, c'est tout à fait louable. Hein,
c'est un contrat de 6 combats, je crois. Enfin, il y a un contrat de combat.
En fait, moi, d'un côté, ça m'est égal. Il fait très bien. Enfin, je veux dire, je suis personne pour le juger. Je comprends très bien que le gain soit plus important que ce qu'on appelle la legacy, etc. Faut penser aussi à ses intérêts personnels.
Ah, je suis complètement d'accord.
Voilà, au bout d'un moment, si t'as c'est mieux. Enfin, il faut bien être payé quand même, surtout quand tu fais un travail aussi dur et éprouvant que athlète professionnel et surtout combattant de MMA. Tu prends des coups, c'est super dur.
Ouais.
Donc, je comprends très bien ça. Maintenant, moi, je suis désolé. Ça, c'est, on va dire, le journaliste, entre guillemets, qui parle, l'homme. Mais le fan, en moi, il est évidemment déçu. Enfin, j'ai aucune hype, aucune attraction à regarder ces combats au KSW. Ça m'est complètement égal de savoir qui va éteindre. D'accord, super. Qui va éteindre, je sais même pas quoi, qui citer en fait, c'est vous dire, je sais même pas vous citer un seul combattant du KSW. Pourtant, je suis passionné de MMA, mais parce que
moi non plus, hein. Alors que le PFL, on peut en citer quelques-uns.
Oui, quand même.
Et c'est ça qui est un peu dommage, quoi, c'est que s'il avait signé au PFL, moi je pense que, je l'aurais accepté, m'aurait, parce qu'en fait, il y a cette question qui émerge de plus en plus, comme t'as dit, au sein des combattants de MMA en ce moment et au sein de la communauté MMA, c'est qu'est-ce qui est le plus important? La célébrité et la gloire et la legacy, comme je disais, donc l'héritage, donc la marque que tu laisses dans le monde des arts martiaux mixtes, ou alors est-ce que c'est l'argent? Et c'est une bonne question, et je pense que tous à leur place, on se posera la question de ah, ok, là je suis mieux payé, là je laisse une plus grosse marque, qu'est-ce que je fais?
C'est pas aberrant comme choix. Non, mais c'est une question en fait, surtout qui a pas de réponse immédiate. On fait souvent le distinguo en prenant deux combattants qui sont ultra connus, mais donc d'un côté Conor McGregor qui a eu une ascension fulgurante, qui a très très mal terminé, mais qui est milliardaire. À peu de choses près, hein. Il est, bon, pas milliardaire, mais il est
il a beaucoup d'argent.
Il est multimillionnaire, hein, quand même, c'est quelque chose. Et en face, Khabib Nurmagomedov, qui, lui, justement, a une ascension beaucoup plus lente, mais qui a une legacy parfaite avec 28 combats, 0 défaite.
Et l'argent en plus.
Ouais. Oui, mais pas les
pas
mêmes
autant,
sommes.
Mais
pas du
quand même.
Tout les mêmes sommes.
Et il a été chopé pour, c'est un tournement de fond il y a pas longtemps.
C'est un autre débat, mais tout ça pour dire que oui, la question se pose souvent. Moi, j'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Je pense qu'il faut respecter aussi, faut jamais perdre de vue le facteur humain derrière. Si t'as une famille à nourrir, si t'as, surtout aux États-Unis, si tu dois payer les études de tes enfants et tous ces trucs-là, et même les frais médicaux, hein, si ta femme ou ton mari a un cancer, c'est quand même
c'est chaud.
va falloir le payer. Donc,
mais il a quel âge, Céladine Parnasse?
24, un truc dans le genre.
Non, il n'est pas aussi jeune que ça.
Je dois l'avoir.
Non, il a un début de trentaine, je pense.
Un début de trentaine, mais du coup, ce qui veut dire que si jamais il souhaite par la suite signer avec. Je ne sais pas comment qualifier.
26 ans, Céladine Parnasse.
Ouais, donc il est quand même relativement jeune.
Il est jeune.
Si par la suite il souhaite signer avec l'UFC ou le PFL, c'est pas.
Il peut, Michael Chandler, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un run très impressionnant au Bellator et après il a signé à l'UFC, donc c'est possible.
Bah, j'espère que c'est ce qu'il fera, mais j'espérais qu'ils prennent la solution. En fait, en gros, on avait un peu l'échelle de KSW, PFL, UFC, où l'UFC est la plus grosse, KSW est la plus petite organisation. Et en fait, t'as le PFL au milieu où ça s'équilibre un petit peu, où au KSW, il va être très très bien payé. À l'UFC, il va être moins bien payé, mais il va laisser une marque, il va se confronter vraiment aux meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et au PFL, c'est un peu l'entre-deux. Il va être très bien payé et il va se confronter à des gens qui sortent de l'UFC ou qui vont y aller. Donc moi, j'aurais préféré cette solution-là quand même voilà, pour que ce soit un peu plus divertissant, quoi.
Ouais,
et je pense que potentiellement il aurait pu à terme gagner plus d'argent en allant au PFL et en augmentant sa visibilité que en restant au KSW et ouais en gagnant. Bah alors du coup j'ai vérifié.
Mais ça c'est difficile à savoir, tu connais pas en tant que public les termes du contrat, ce qu'on peut leur imposer, les sponsors, ce genre de choses.
Au KSW il y a plein de sponsors, donc
c'est compliqué.
Mais là c'est 600 000 euros minimum par combat. Il arrive au combat, il se fait mettre KO au premier round, il empoche 600 000 balles.
Mais tu as rien que ça, moi je comprends.
Au KSW
600 000 euros. Genre, pour faire une comparaison.
Non, mais il fait le million s'il gagne. Hein.
600 000 euros, faut être très clair.
Parce que j'ai compris.
Je vais faire un.
Attends, au KSW ça
Au KSW, ouais. Okay. Là où il a re-signé.
600 000 euros, c'est la somme qu'a empoché Max Holloway après avoir mis KO Justin Gaethje à l'UFC 300. Et 600 000, c'est un truc que l'UFC ne l'a jamais pour un combattant. Ceci, c'est vraiment monstrueux. Là, c'est Aline Parnas. C'est comme tu l'as dit, il peut se faire mettre KO au premier round, il aura 600 000.
C'est ça. Il peut dormir dessus, quoi. Mais voilà.
Pardon.
Oui, vas-y.
Enfin, parce que tu t'évoques les différences de salaire entre l'UFC et le KSW, mais qu'est-ce qui l'explique finalement? Parce que l'UFC, tout le monde connaît.
C'est des gros.
Tu ne regardes pas
Dana White et Gilles Ordure.
C'est aussi pour ça que ça marche. C'est aussi pour ça que ça marche bien. Hein.
Non, mais alors la question concerne beaucoup plus le KSW parce que c'est beaucoup plus anonyme finalement. Moi, j'ai jamais entendu. Enfin, après, je suis pas.
C'est que pour avoir des bons combattants et des bons combattantes, ils sont obligés d'y mettre le prix.
Mais ils n'ont pas de bons combattants, le KS.
C'est pour ça, c'est quand il y en a un ou deux qui sont bons, ils les gardent à tout prix. Et Saladin Parnasse, 600 000 balles à chaque combat, ouais, c'est une somme. Mais Saladin Parnasse, c'est le plus gros combattant au KSW, je pense. Hein.
C'est le seul que les gens connaissent.
Ouais, je pense. Hein. Après, c'est un point de vue français, donc je ne sais pas. Mais oui, enfin, c'est une ligue qui n'a rien à voir avec le niveau de l'UFC. Mais bon, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Saladin Parnasse son choix de rester au KSW, qui est plus ou moins compréhensible. On lui jettera pas la pierre, mais bon, on est un peu dégoûté quand même. C'était tout pour cette émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast quand je les aurai postés, si j'y arrive un jour. Je suis désolé pour ça.
On se dit ça en janvier 2025, du coup.
Oh, ça fait long. Non, je vais y arriver avant la fin de l'année, quand même. Non, bien avant la fin de l'année. Avant la semaine prochaine, peut-être. On verra. C'est ça le suspense aussi. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Prune Radio sur Spotify et Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain.
Même jour,
même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club.
Bonne soirée.
Bonne soirée.